Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Et au FC Stream Team, comme partout, on souffre de l'inflation. Les prix qui s'envolent, les salaires qui plafonnent, choisir entre le plein ou les cadeaux pour les petits à Noël, entre le paquet de pâtes ou les médicaments pour traiter l'asthme du fiston. Ah, c'est le lot de tout le monde. Je ne suis pas ici pour me plaindre, m'apitoyer sur mon sort. Puis en plus, ce serait mettre mal à l'aise mon chef, celui qui se tient juste à mes côtés, celui qui décide de mon salaire à la fin du mois. Et je ne veux pas vous prendre à témoin et le mettre dans une situation inconfortable. Bref, je sais pas pourquoi je parle de ça d'ailleurs. Cette semaine, j'ai décidé d'aller sur Apple Podcast pour voir ce que vous pensiez de notre émission. Et je vais vous lire un commentaire, allez, je vais le prendre au hasard. Tiens, celui-là, là, voilà, celui qui arrive, prenons ce commentaire de Maxence Winner. Merci pour la qualité de vos podcasts, des analyses pertinentes, de vrais connaisseurs du foot, des sujets ouvrant sur l'actualité, une vraie complicité. Alors oui, ça réchauffe le cœur hein, dans ces moments difficiles pour nous tous. Je continue, pardon. Pitié Eurosport, augmentez Martin, il le mérite amplement, il est beaucoup trop sympa. Alors ça, très franchement, non franchement, là je suis un peu embarrassé, je ne sais pas quoi dire parce que c'est du pur hasard. Maxime, il faut quand même que tu nous dises ce que tu en penses.
J'en pense beaucoup de bien. Tu es effectivement très très sympa. Un formidable
J'ai cru que tu allais dire que tu n'es effectivement pas assez payé.
Tu es un formidable partenaire, mais tu connais aussi ma probité, mon honnêteté, ma clarté, j'ai envie de dire ma forme de transparence. Et si je dis à Maxence Winner, ton salaire.
Aucun problème.
Ou à la rédaction, parce qu'il y a aussi les gens de la rédaction qui écoutent et que tu as été augmenté de 25% l'hiver dernier.
En tout cas, pour moi, il faut écouter son public. Et quand le public réclame, il faut donner au public. Tu vois, c'est comme les jeux du cirque. À un moment, il réclame quelque chose, c'est la vie ou la mort. Là, il réclame plus que la vie. Faut que Maxence Winner soit satisfait à un moment donné. Maxime.
C'est vrai, c'est
vrai. Tu veux qu'il continue d'écouter.
Écoute, Maxence.
Je précise que Maxence n'est ni un membre de ma famille ni un ami. Hein.
Non, mais ça peut le devenir, j'ai l'impression.
Oui, ça peut le devenir. Ça l'est déjà.
Alors, Maxence, il faut savoir quelque chose, c'est que les augmentations se décident en gros en fin d'année.
De toute façon, je vais venir mon entretien avec le message avec de Maxence. Message.
Ouais, mais là, t'as
imprimé sur un t-shirt.
T'as cassé l'effet de surprise.
C'est vrai.
Là, je sais comment me préparer. Et Martin, tu sais, c'est dur en ce moment. Tu sais, l'inflation, l'essence, les difficultés. J'essaierai de faire un effort. Voilà. Mais moi, tu sais que je veux le bien de tout le monde. Donc, si je pouvais, j'augmenterais d'ailleurs. C'est pas mon argent.
Un peu encore plus. Donc, vas-y,
Maxime. C'est pas mon argent. Mais j'aime bien être juste. Et voilà, si ça dépendra de l'enveloppe qu'on a, si elle est de 25% ou 30%. Non, c'est pas vrai. Croyez pas qu'on a des augmentations de 25% ou 30%.
Ouais, ce serait beau.
Ce serait magnifique. Surtout depuis le temps que tu es là, ça veut dire que tu aurais.
T'imagines 25% par an depuis 15 ans? Ça dépend en combien tu pars, mais tu montes vite.
Mais même si tu pars de bas, c'est pas mal.
Tu montes vite. Bref, on a quand même une émission.
Ouais, il faut savoir quelque chose quand même. Pour tous les apprentis journalistes, les futurs journalistes, sachez que si on avait fait et si vous voulez devenir riche, a priori, c'est pas le journalisme.
Non. Mais c'est un métier de passion.
C'est un métier de passion.
Je vais te dire quelque chose, Maxime. Je ne devrais pas te le dire. Mais même si tu me payais pas, je viendrai. Tu vois. Je viendrai faire écrire des articles, faire des podcasts. Parce que moi, c'est la passion qui m'anime.
C'est ça.
L'argent, après, c'est secondaire. Franchement, je suis pas un homme d'argent. Je suis pas un homme d'argent, tu vois.
Dit-il après avoir lu un message sur une augmentation.
Mais je l'ai pris au hasard.
Mais en plus, celui-là, il traînait depuis un bout de temps sur Apple Podcast. Je l'avais vu aussi. Et...
C'est du pur hasard. Bref, aujourd'hui, une émission où on va pas parler d'argent ou peut-être dans le premier sujet.
De toute façon, on ramène toujours un peu à l'argent.
C'est vrai, avec un premier sujet sur. On va se demander si c'est la fin de Cristiano Ronaldo, tout simplement. Cristiano qui est mis à l'écart du groupe de Manchester United. On va revenir dans les détails sur cette affaire-là dans notre premier sujet. On va évidemment clairement se poser la question de son avenir, des responsabilités aussi du club et des siennes. Ce sera notre premier sujet. Ensuite, Maxime, on parlera de Lyon.
On parlera de Lyon et de l'arrivée de Laurent Blanc, évidemment, et des joueurs que Laurent Blanc peut relancer. Parce que, évidemment, quand il y a un changement d'entraîneur, on l'a vu déjà à Rennes la semaine dernière, il y a des grands gagnants, des grands perdants. Donc, on va voir un peu le panorama des joueurs qui ont beaucoup à gagner avec Laurent Blanc.
Et on terminera avec Paul Pogba qui a repris le chemin de l'entraînement cette semaine. Bonne nouvelle, est-ce à dire qu'on le retrouvera au Qatar? C'est dans un mois le premier match des Bleus, me semble-t-il.
Ouais, on est 22, combien 22 novembre.
Ouais, bah c'est quasiment pile poil dans un mois. Est-ce qu'il sera là? On s'intéressera donc au dilemme de Didier Deschamps.
Dans un mois, on sera...
On sera là, nous aussi.
On sera là aussi, et je peux vous dire qu'on va vous faire une sacrée Coupe du Monde.
Mais on sera vraiment là.
Et d'ailleurs, à ce propos, je reviens sur l'intro de Martin, pas pour parler d'argent, mais pour vous remercier des messages assez sympas qu'on reçoit assez régulièrement. Ça fait plutôt plaisir, même s'il y a des critiques.
Là,
des
il y avait un monsieur qui s'appelle Monsieur Tout le Monde.
Monsieur Tout le Monde, ouais.
Ouais, qui nous a laissé des messages très sympas sur LinkedIn.
Alors que ce soit LinkedIn, Twitter dans la rue, c'est plutôt sympa, ça fait plaisir. Donc si vous avez des choses à nous dire, bah.
Place qu'il est reconnu dans la rue, mais l'air non, de rien. Sur Twitter dans la rue, effectivement, où j'ai du mal à faire mes courses.
Ouais. Ah ouais, c'est l'enfer.
Ouais, c'est l'enfer. Mais oui, merci à tous. On y va, Maxime.
Alors oui, et vous pouvez retrouver l'émission. Vous pouvez
retrouver. Te lustrer.
J'ai eu peur. Vous pouvez retrouver l'émission sur toutes les bonnes plateformes de podcast, évidemment. Et vous cherchez Eurosport Football Club, parce que Eurosport Football Club, c'est un peu le chapeau de toutes nos émissions football. Mercredi Mercato, Tour d'Europe le lundi. Mercato, c'est le mercredi. Et évidemment, la FC Stream Team. Le vendredi, oui, Martin, on va pouvoir y aller. On va démarrer donc par le cas Ronaldo. Ronaldo qui a fait des siennes jeudi soir. Manchester United a battu Tottenham 2-0. Une sacrée perf de Manchester United. Et évidemment, j'ai envie de dire évidemment, ça fait bizarre de dire ça aujourd'hui, mais c'est le cas. Ronaldo était sur le banc. Ronaldo a même refusé d'entrer. Et Ronaldo est surtout sorti du stade bien trop tôt, bien avant la fin du match. Évidemment, ça fait des remous. Ten Hag l'a mis de côté pour le match contre Chelsea. Alors Martin, est-ce que, que penses-tu de cette situation et est-ce que c'est la fin de Ronaldo à Manchester? Et après, on parlera de la fin de Ronaldo tout court.
Ça fait beaucoup de questions. Je vais essayer d'être concis. Pour moi, les torts sont partagés. Parce qu'évidemment, Ronaldo n'avait pas à faire ça. Mais en même temps, je trouve ça un peu dur de la part de Manchester United et de Ten Hag d'avoir tout fait pour le pousser à réagir de la sorte. Parce qu'il savait... qu'en mettant Cristiano Ronaldo dans cette situation et en le clouant dans cette situation, bah, il réagirait comme ça parce que c'est un homme d'orgueil. On parle de Cristiano Ronaldo, on parle de l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Est-ce qu'il fallait le traiter ainsi? Je ne suis pas sûr. Ou en tout cas, moi, pour moi, tout s'est noué cet été. Manchester n'a pas réussi, n'a pas voulu, n'a pas pu le vendre. Donc ça, c'est une première erreur parce que dès lors que Ten Hag prenait les rênes de l'équipe de Manchester United, on savait que ça allait mal se passer avec Cristiano Ronaldo. Là, il l'a poussé dans ses retranchements. Ronaldo a fini par exploser. Et je pense que ça sert plutôt Ten Hag, qui du coup peut se servir de ça pour le mettre à l'écart et pour assainir son vestiaire. Parce qu'évidemment, il a eu la bonne réaction. Il ne pouvait pas ne pas réagir. S'il veut continuer à tenir son équipe, il était obligé de réagir ainsi. Mais je dirais que quand même, voilà, pour moi, les torts sont partagés.
Alors les torts sont en effet partagés, parce que de toute manière les torts sont toujours partagés globalement. C'est rare que tout soit blanc, tout soit noir. Je te suis sur un fait, c'est-à-dire que garder Ronaldo n'a pas tellement de sens si vous ne comptez pas vraiment sur lui. Or, est-ce que on peut aussi se dire que Ten Hag comptait peut-être sur Ronaldo? Quand non, au 31 août il dit on va le garder, etc. Bon, évidemment ça n'a pas fonctionné. Mais si Ronaldo n'est pas parti, c'est pas complètement de la faute de Manchester United aussi. Peut-être que Ten Hag comptait aussi sur un autre Ronaldo. Peut-être qu'il avait l'espoir d'avoir ce Ronaldo à 37 ans. Non mais tu peux avoir ce,
on
tu
connaît peux avoir Ronaldo. Ce doute-là.
Eh oui, mais c'est bien le problème. Moi, Ronaldo, il y a deux choses. Immense joueur évidemment qui mérite une immense sortie aussi à l'image de ce qu'il a fait. En revanche, je pense que Ronaldo a pris le problème à l'envers dès voilà, le fameux problème à l'envers. Je savais qu'il
le prend chaque semaine. Écoutez, toutes les semaines les podcasts, toutes les semaines, voilà. Maxime, le problème
mais
à l'envers.
Là, ça tient vraiment bien. Il a
mais
pris le problème à l'envers parce que pourquoi? Parce que cet été, Ronaldo, il a commencé par quoi? À dire je veux partir pour un club qui veut jouer la Ligue des Champions. C'était pas je veux aider mon club à la retrouver, je veux un club qui veut jouer la Ligue des Champions. Ça dit quoi? Ça dit que Ronaldo, il est obsédé par ses statistiques, il est obsédé par la Ligue des Champions. Et que ça a été son moteur toute sa carrière, donc je serais bien malvenu de lui reprocher. Sauf qu'aujourd'hui, c'est devenu un frein ultime. Pourquoi? Parce que ses agents ont cherché Chelsea, le Bayern, Naples, tous ces clubs-là.
Sporting.
FC Barcelone, il y a eu l'Atlético. Imaginez quand même lui, légende du Real, aller à l'Atlético parce qu'il était obsédé par la Ligue des Champions et, il faut le dire, par sa personne. Voilà. Et même le Sporting l'a refusé, alors que le Sporting, c'est le club de ses débuts. Mais ça dit quoi ? C'est que les gens ont de gros doutes sur ce que peut faire Ronaldo et que il est, il prend plus qu'une place dans le vestiaire. Et qu'avoir Ronaldo, notamment avec des jeunes, ce qui est aussi le cas de Manchester United, c'est très compliqué. Donc moi, j'ai un reproche à faire Ronaldo aussi, c'est qu'il loupe aussi la pré-saison. Alors, raison personnelle, c'est peut-être vrai, mais le problème, c'est que déjà, il se met un peu en marge. Un match amical contre le Rayo Vallecano, il n'est pas tout seul, mais il part aussi avant. Ce qu'il a fait hier, à 37 ans, après une carrière comme ça, c'est pas digne d'un joueur de ce calibre-là.
Oui, mais ce
de
que
refuser
fait...
de rentrer,
oui,
c'est pas digne d'un joueur de ce calibre-là.
Ce que fait vivre, entre guillemets, parce que c'est pas non plus... Voilà, oui. Mais ce que fait vivre Manchester United à Ronaldo, je pense que ce n'est pas digne d'un joueur de ce niveau-là non plus, de cette aura-là. Ronaldo, l'an dernier quand même, parce que là, on a l'impression qu'on parle d'un vieillard qui est sur une fin de carrière, en décrépitude totale, et qui se croit plus beau qu'il ne l'est. Ronaldo, c'est 6 buts en 7 matchs de Ligue des Champions l'an dernier, c'est le meilleur buteur de Manchester United. Il y a aussi ça, c'est-à-dire que... Et puis, c'est une légende du club, c'est l'un des plus grands clubs, c'est l'un des plus grands joueurs d'un des plus grands clubs de l'histoire. Donc, je ne sais pas s'il fallait... S'il fallait en arriver là avec
évidemment
lui.
Qu'il fallait le laisser partir.
Mais oui.
Enfin, le laisser partir si tant est qu'il y a ce qu'il faut.
À un moment, Manchester United, ils peuvent faire un geste aussi pour Ronaldo, le libérer. Le mec, il leur a apporté une Ligue des Champions. Enfin, voilà, il ne faut pas oublier quand même qui est Cristiano Ronaldo. Après, il a ses torts, effectivement. Il a sa personnalité qui est hyper clivante. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit avant. Mais, il me semblait... Déjà, il me semble qu'il ne faut pas tout lui mettre sur le dos. Et de le considérer, de le traiter avec l'égard que mérite son statut.
Dans ses contradictions, il y a ce qu'il dit dans son communiqué hier. En gros, il explique plus ou moins, alors il ne s'excuse pas, parce que je pense que c'est trop dur pour lui de faire ça, mais il explique qu'il veut être un exemple pour les jeunes, etc. Or, ce qu'il a fait contre Tottenham, non.
Je suis d'accord avec
toi. C'est impossible de faire ça.
Mais je pense que Manchester l'a poussé à bout aussi. Mais évidemment que Ten Hag veut en arriver à cette situation-là. Il lui fallait quand même une raison. De toute façon, on sait, et c'est sans doute vrai, que Ronaldo pourrit un petit peu le vestiaire. Donc il fallait le mettre de côté.
Est-ce que tu crois franchement, tu te mets à la place de Ten Hag ? Tu sais ce que tu veux faire, tu sais que Ronaldo entre pas, enfin,
oui, mais c'est
que Ronaldo n'a pas tellement envie.
Oui, c'est intenable.
Oui, mais peut-être que son plan de départ, c'est pas celui-là. Contre Benford, il joue, il prend 4-0. Il se trouve que le match après, ça va mieux sans lui. À un moment, c'est aussi la règle. Et peut-être que Ten Hag, on peut pas. Je pense que là où je veux pas être caricatural, c'est de dire que Ten Hag l'a gardé pour le faire chier tout simplement et le pousser à bout. Aucun entraîneur fait ça parce que c'est quand même. Enfin, t'imagines le risque quand même d'avoir un mec comme ça dans ton vestiaire si jamais les résultats ne vont pas mieux. Enfin, c'est un risque immense, alors que tu peux y gagner beaucoup si le joueur est complètement intégré. La vérité, pour moi, c'est que Ronaldo, et on en parlera sûrement après pour la suite, n'est pas capable de changer, tout simplement. C'est-à-dire qu'il a 37 ans, il n'est pas capable de penser qu'il a... Tu dis l'année dernière, oui, sauf que regarde, je vais donner des milliards d'exemples dans le sport. Alexis Pinturo, en ski, il gagne le Gros Globe. L'année d'après, il ne met pas un ski devant l'autre parce que c'est dur et parce que ce n'est pas comparable. Parce que sinon, joueurs resteraient tout le temps au haut niveau.
Mais Ronaldo, ça fait 15 ans qu'il est au très, très, très,
très, très,
très.
Et oui, mais il y a un moment où ça bascule. Ça s'appelle la fin de carrière et que... La meilleure chose à faire, c'est d'accepter de... Moi, j'aurais adoré... Moi, en vrai, ce que j'adorerais, je peux dire adorer, parce que je pense que c'est terminé, c'est de voir Ronaldo dans le rôle d'un super papa dans cette équipe-là. Et qu'il accepte ça, je comprends...
Qu'il transmet, etc.
Transmette, voilà. Mais je sais... Mais le problème, c'est que ce n'est pas son caractère. Et c'est dommage, parce que ce que je dis tout à l'heure, ça a été un formidable moteur, ça a été l'essence de sa carrière, d'être obsédé par sa personne, il faut le dire, par les stats... par faire gagner, par être au devant de la scène, à un moment, il faut accepter qu'on n'y sera plus tellement et qu'il y a une manière de se réinventer.
Ou alors
je pense qu'il n'en est pas capable.
Ou alors peut-être pas à Manchester United, parce que justement, c'est la question qu'on va se poser sur son avenir. C'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de Ronaldo ? Il semble aujourd'hui relativement clair que son avenir ne s'écrit plus, en tout cas à Manchester United, qu'il y a un mercato d'hiver qui va arriver très très vite, puisque là, il y a un mois de Coupe du Monde, donc il va jouer avec le Portugal. Et je suis même pas sûr qu'on le revoie avec le maillot de Manchester United. Je sais pas. Je
ne
veux pas insulter l'avenir, mais c'est tout à fait possible. Son avenir s'écrit ailleurs ou c'est très compliqué parce que là, effectivement, quand tu es un grand club avec un grand projet, et on sait qu'aujourd'hui les projets sont plus tournés vers les équipes quand on regarde Manchester City, ce qu'ils ont fait, le Bayern évidemment, mais même le Real Madrid au final. Quel club aujourd'hui se construit à partir d'individualité, à part le Paris Saint-Germain? Bon, alors, si le PSG fait venir Ronaldo, moi je me fais moine, parce que là je ne comprends plus rien. C'est-à-dire, voilà.
Et surtout cette année.
Surtout cette année. Donc c'est très difficile de lui voir un avenir dans un club compétitif en Ligue des Champions. Est-ce que tu es d'accord avec
moi? Oui, je suis d'accord, et je pense que la suite logique, ce serait une destination dite exotique. Alors évidemment, ce n'est pas seulement vers l'Est du monde, mais l'Ouest, aux États-Unis, quelque chose comme ça, où là, il garderait évidemment le devant de la scène pour de bonnes et de mauvaises raisons.
Mais c'est acté son déclin, là, pour le coup. C'est vraiment...
Oui, et puis c'est
je pense que c'est presque trop tôt pour lui, que lui, il va espérer
ouais, jusqu'au bout. Mais malheureusement, je pense que la Coupe du Monde peut jouer un rôle aussi là-dedans. Mais quand tu vois que les médias portugais, sur le dernier rassemblement, se posent aussi des questions ouvertement sur lui... Bah, ça pose question. Alors évidemment, tu as raison, c'est pas complètement de sa faute, c'est aussi la situation à Manchester, mais il y a un vrai truc. Et si aujourd'hui, tu es un club dit sérieux de Ligue des Champions, bah, tu n'y vas pas vraiment. Les clubs n'y sont pas allés cet été. Donc je vois pas pourquoi ils iraient désormais vers Ronaldo.
Peut-être parce que ses prétentions vont peut-être un peu descendre du coup.
Peut-être.
Parce qu'il est dans une situation un peu plus... Ah, où il est un peu plus accusé.
Justement, parce qu'on a souvent parlé des 10 dernières années, évidemment, un peu plus maintenant, où Messi et Ronaldo avaient créé un monstre à double tête, en fait. Bah, est-ce qu'il y a un marché pour les joueurs comme ça? On a vu que pour Messi, il n'y en avait pas. C'est parce qu'il y avait juste City et le PSG qui avaient les moyens, et City n'a pas voulu. Donc, Ronaldo, avec 3 ans de plus que Messi, et ça fait même 4 ans en décalage, parce que c'était l'année dernière pour Messi... Bah, ouais. Il y a encore moins de marché à ce niveau de salaire. Et j'ai la faiblesse de penser aussi que même en faisant un bel effort, j'aurais quand même un doute. Parce que le cas Sporting était très intéressant. Déjà, on se demandait comment le Sporting aurait les moyens de se payer un joueur comme ça. Mais on sent que c'est un éléphant dans un magasin de porcelaine. C'est-à-dire qu'on est en train de construire quelque chose. Il va arriver, c'est Ronaldo, avec toutes les considérations qu'il y a autour, avec toutes les conséquences qui ne sont pas seulement négatives. Ça peut déstabiliser, donc c'est vrai que c'est très compliqué. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, alors, on est toujours... faut jamais être surpris de ce qui arrive. On aura des 10 milliards d'exemples de choses qui sont arrivées qu'on n'avait pas vu venir. Mais c'est vrai que j'ai quand même beaucoup de mal à imaginer aujourd'hui Ronaldo dans un club majeur qui soit, par exemple, un des 16 finalistes, un des 16 huitièmes de finalistes de la Ligue des Champions. Ça me paraît quand même difficile, hormis une Coupe du Monde complètement folle où on se dise le mec a encore plein de trucs dans le tank, il faut absolument lui redonner une chance dans un grand club. Mais ça me paraît quand même assez difficile.
Ouais, ça paraît difficile. Et donc son avenir semble s'écrire effectivement sur une destination peut-être un peu plus exotique.
Los Angeles, ouais. C'est pas mal. Hein.
Mmh. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. J'en connais un qui présente d'ailleurs cette émission avec moi, qui rêverait d'ailleurs d'y finir.
Ah non. Pas Los Angeles.
Ah non. T'es pas assez show-off, toi? Toi, t'es plus discret.
Ouais, je suis plus discret. Et ouais. Surtout que
la Floride, du coup.
Bah, non, mais il y a des coins très discrets en Floride.
Ouais, ouais, Miami Beach.
Miami. C'est certainement pas Miami.
Je te vois Miami, Maxime, depuis sur Miami Beach.
Mais déjà, je te dis un truc, à Miami, moi. Au bout d'un an, j'ai chopé un cancer de la peau.
Oui, c'est pas faux. Ouais, c'est pas faux. Alors, pour ceux qui n'ont jamais vu la tête de Maxime Dupuis et qui nous écoutent qu'en podcast, ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'œil. Donc, allez sur eurosport.fr, retrouver les vidéos.
Ça dit, quand je vois la luminosité, tu me parais pas très en forme non plus.
Non, alors, c'est pas la luminosité, c'est mes enfants. C'est les nuits qui sont trop courtes là en ce moment, beaucoup trop courtes. On passe au deuxième sujet avec Lyon qui affronte Montpellier ce week-end, le deuxième match de Laurent Blanc. Le Sevenol, d'ailleurs, qui affronte les Héroltais.
Et d'ailleurs, on aura un très bon papier sur sport.fr sur les années de Laurent Blanc à Montpellier.
Exactement. Et on va se poser la question des leviers de Laurent Blanc. Alors, des leviers, on parle des joueurs. Il en a relancé déjà quelques-uns contre Rennes. Ça s'est moyennement passé pour eux. Mais on va se demander si ces joueurs-là ont une chance avec Laurent Blanc, d'abord. Et si nous, on les voit se développer, prendre de la place enfin dans l'effectif lyonnais. Alors, on en a sélectionné 5, me semble-t-il, oui. Si je ne dis pas de bêtises. 5 qui ont vécu un début de saison compliqué avec Peter Boss, Jérôme Boateng, évidemment, Oussem Aouar, Romain Fèvre, Ryan Cherki et Moussa Dembélé, qui lui aussi. Alors, soit ils étaient cloués sur le banc, soit carrément ils ne jouaient pas. On pense à Boateng, on pense à Aouar. On va démarrer peut-être avec Jérôme Boateng, ouais. Maxime. Pour toi, est-ce que Boateng peut se relancer avec Laurent Blanc?
Oui, déjà, le fait de l'avoir joué est une forme de relance, déjà. Parce que lui, il était vraiment à la cave et même le club ne comptait plus sur lui. Il y a des difficultés dans le jeu, il y a des difficultés physiques, mais je pense que Jérôme Boateng a vraiment un rôle à jouer. Je pense que Didier, Laurent Blanc, pardon, on parle de sélectionneur de l'équipe de France, compte sur lui. Pourquoi ? Parce que il y a deux choses qui m'ont mis la puce à l'oreille. Déjà, les deux avoir eu un entretien individuel au début de l'arrivée de Laurent Blanc, c'est Aouar et Boateng. Généralement, quand vous faites ça, c'est que vous avez un message à faire passer très très précis et sur le joueur et même au reste du groupe. La deuxième chose, c'est ce qu'il a dit Laurent Blanc après la défaite à Rennes du week-end dernier. Je vous lis sa décla. On a une défense jeune. Je ne dis pas très jeune, mais jeune, avec des joueurs de 18 ans, 19 ans, 21 ans, parmi les 5. Alors, il faut qu'ils apprennent et qu'ils apprennent vite. Et à cet âge-là, souvent, vous apprenez, mais vous jouez en réserve. Eux, ils joueront pro. Donc oui, il faut qu'ils apprennent très vite. Ça va être un peu le fil conducteur de cette réflexion. Laurent Blanc, il est jeune. Ce n'est pas forcément une grande histoire d'amour. Et au-delà de ça, il n'a pas un profil de développeur. Mmh. On sait qu'il va être très fort dans la philosophie et dans l'empreinte à donner à son équipe. Et je pense que pour lui, avoir tous ces jeunes en défense, c'est déjà beaucoup. Et qu'il a une confiance, on va dire, relative là-dedans. Donc, il veut mettre un taulier. Et je pense que Boateng a un rôle à jouer. Est-ce qu'il saura le tenir ? Ça, je n'en sais rien. Mais en tout cas, je pense que Boateng a beaucoup à gagner. De toute façon, pour lui, c'était pas très dur en même temps.
Oui, mais moi, je ne suis pas sûr que Jérôme Boateng soit encore capable de tenir ce rôle-là. Aujourd'hui, il est à Munich pour son procès. Il a 34 ans. Il est champion du monde. Il a été l'un des plus grands défenseurs centraux du monde à un moment donné et pendant un certain laps de temps. Et je pense que c'est difficile à 34 ans aussi de retrouver cette envie-là dans un club de Ligue 1 qui, même si c'est Lyon, bataille pour les places européennes. Et je pense aussi que son gabarit ne l'aide pas, c'est-à-dire que c'est un joueur. Autant je pense qu'un Aouar qui a très peu joué peut rapidement se refaire la cerise, autant je pense que Boateng à 34 ans, on parlait de déclin pour Ronaldo sur la première partie de cette émission, là je pense qu'on est en plein dedans avec Boateng et je ne suis pas sûr qu'on le revoie à un niveau décent qui lui permettent de, semaine après semaine, postuler à un poste de titulaire. Blanc, que Blanc veuille le relancer, je pense qu'il a tout intérêt et qu'effectivement c'est nécessaire et crucial pour Blanc. Ça m'étonnerait qu'il y arrive.
En fait, la clé pour lui, ça va être la Coupe du Monde, et non pas avec l'Allemagne, mais à Lyon pendant un mois. Pourquoi ? Parce que Laurent Blanc l'a dit aussi à son arrivée. Évidemment, l'urgence, c'est de prendre des points, c'est de repartir. Et qu'il espérait justement profiter de la Coupe du Monde pour faire la préparation qu'il n'a pas fait puisqu'il n'était pas en poste. Et justement, il va avoir un mois pour essayer de retaper un joueur comme Boateng. Pour moi, la bascule, elle est là. Mais oui, évidemment, il compte sur lui. Mais on saura très vite. S'il n'est pas capable de jouer plus d'une heure après s'être préparé un mois, on aura notre réponse déjà.
Alors, on va essayer de faire un peu plus court sur les autres parce que sinon, on va y passer notre vie, Maxime. Oussem Aouar, pour moi, ça va être le grand gagnant. Ouais. Pour moi, ça va être le grand gagnant. Pourquoi ? Déjà parce que c'est un joueur qui répond aux critères de Laurent Blanc. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, je ne sais pas s'il en fera un Gourcuff ou un Wendel. On l'espère vraiment pour Oussem Aouar et pour l'Olympique Lyonnais. Mais en tout cas, il a cette fibre, ce jeu, cette patte tactique qu'adore Laurent Blanc. C'est un joueur incroyable. Maintenant, alors, Oussem Aouar, il y a deux choses. Il va d'abord falloir le regonfler physiquement parce qu'effectivement, il n'a quasiment pas joué en début de saison. Donc, il va falloir le remettre sur patte. Mais surtout, il va falloir lui laver un peu la tête. Lui faire comprendre que il est à Lyon, mais c'est quand même pas si mal, qu'il a tout intérêt à épouser le projet de Laurent Blanc. Je pense qu'Aouar n'a jamais digéré de ne pas être parti au bon moment de l'Olympique Lyonnais, d'avoir vu sa cote s'effondrer sur le marché des transferts. Mais je pense qu'un projet insufflé et incarné par Laurent Blanc, c'est pile poil ce qu'il fallait à ce joueur-là.
Ouais, je pense qu'il y a besoin de le regonfler, comme tu l'as dit, parce qu'il a dit il y a quelques jours dans l'équipe qu'il avait accepté tous les projets qu'on lui avait donnés. Ouais. C'est-à-dire Benfica, je crois qu'il y avait Benfica, Nottingham Forest, il était prêt à aller partout.
Je crois aussi.
Il était prêt à quitter Lyon à n'importe quel prix. Donc résultat, il n'est pas parti et voilà, il faut le regonfler. Et comme tu le dis, voilà, Laurent Blanc, tout à l'heure je parlais de Didier Deschamps, quand je pense à Laurent Blanc, je pense tout de suite à l'équipe de France ou même à Bordeaux. Première chose, moi j'avais eu la chance d'interviewer à son arrivée à Bordeaux. Première chose, c'était philosophie de jeu. Arrivé en équipe de France, philosophie de jeu. Alors ça a plus ou moins marché parfois, mais n'empêche que souvenez-vous, le milieu de l'équipe de France, il voulait un milieu à 3, il voulait Cabaye, il voulait un joueur qui avait du ballon. Il adorait Yann Mvila, voilà, parce qu'il voyait aussi dans les qualités du joueur ses qualités de passe, les transmissions. Et là, Aouar, évidemment, pour donner du lien, il n'y a pas mieux. Et en même temps, je le comprends. Voilà. Je pense qu'Aouar, là, il est non pas un... Oui, si, il est une forme de tournant. Il a vraiment tout à gagner. Et lui, beaucoup plus que les autres, pour le coup.
Ouais, alors sur Romain Fèvre, c'est un peu le même constat. Sauf que je pense qu'il va être un peu plus confronté à la concurrence sur les ailes. pense à Toko Ekambi, on pense à Tété. Enfin, il y a du monde pour Fèvre. Il ne jouera pas moins parce que c'est pas possible, mais lui aussi c'est un mec qui est quand même bourré de talent, qui répond bien aux critères de blanc, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Mais après, comme tu l'as dit, à un moment il y a du monde. Il suffit de prendre la liste des milieux de terrain de l'Olympique Lyonnais, il y a du monde. On va pas parler de Jeffrey Nadelaïde, mais il est aussi là. Il faut trouver de la place pour tout le monde. Et c'est sûr que quand vous mettez déjà Cacré, quand vous mettez déjà Aouar, potentiellement il y a moins
le
de place.
Penant,
le
ouais.
Penant, voilà. Donc je pense que c'est pas impossible, parce que comme tu l'as dit, ça rentre dans la philosophie de Blanc. Blanc aime bien ces joueurs-là. Mais il va falloir se montrer très vite en vue et très vite aussi plus efficace qu'il ne l'a été depuis le début de saison. Lui aussi peut gagner, mais voilà, j'ai peur que lui soit battu aussi par la concurrence.
Cherki, ça risque d'être plus compliqué peut-être. Laurent Blanc l'a dit tout de suite quand il est arrivé, hein, que les jeunes, quand on est dans une situation comme ça, un peu d'urgence, c'est compliqué de faire confiance aux jeunes. Et je pense que Cherki, qui n'est pas rentré en jeu lors du premier match de Laurent Blanc, ça aussi, ça signifie quelque chose quand même à Rennes. Il n'est pas rentré en jeu, c'est le seul là, dont on parle. Enfin, Fèvre était blessé, je crois. Mais voilà, qui n'est pas rentré en jeu. Donc, Cherki, je ne suis pas sûr qu'il profite pour le coup du changement d'entraîneur.
Non, ça va être difficile aussi, du moins dans un temps 1. Parce que l'urgence, voilà. Évidemment, exactement. Blanc l'a dit. Le beau jeu, oui, évidemment. Mais là, il a vu aussi l'urgence. Il arrive en pleine saison. Il dit, bah oui, mais là, il faut surtout prendre des points. Et il le dit avec les jeunes, avec les défenseurs. C'est-à-dire qu'il faut les développer. Et Cherki, on l'a vu, quand Peter Bosz a fini par lui donner sa chance. Alors, ce n'est pas que la faute du joueur, mais ça n'a pas répondu à ce qu'on pouvait espérer, ce que le public espérait, ce que les supporters espéraient, ce que les techniciens de l'OL espéraient. Donc, ils savent qu'il va falloir aussi du temps pour le développer. Or, l'OL, là, n'en a pas le temps. Je pense que Cherki au mieux, ça peut être un super sub dans les semaines qui viennent.
Comme il l'a toujours été.
Comme il l'a toujours été, voilà. Donc, soit ça passe comme ça, mais je pense qu'il y a aussi le travail sur lui-même et sur le joueur à faire avant que Laurent Blanc le développe, parce que Laurent Blanc est jeune, voilà, c'est pas forcément une grande histoire de développement.
Moussa Dembélé, tu as plutôt convaincu quand il a été associé à Alexandre Lacazette. C'est quand même un joueur qui a énormément de qualité. Alors oui, lui, il est en fin de contrat à la fin de l'année, donc voilà, il a une situation contractuelle délicate. Malgré tout, Lyon a besoin aujourd'hui de joueurs tels que Moussa Dembélé. C'est quand même, je crois, le meilleur buteur en Ligue 1 entre janvier et juin dernier, donc mai dernier, sur la deuxième partie de saison. Ça paraissait quand même bizarre de le clouer sur le banc. Et puis Laurent Blanc, dans son passé, il n'a jamais hésité à associer deux pointes. On pense à Cavani, Ibrahimovic au Paris Saint-Germain. On pense à Chamakh Kavenaghi, j'allais dire Cavani, du côté de Bordeaux. Et je pense que Dembélé peut profiter de l'arrivée de Laurent Blanc.
Oui, complètement. Se passer d'un joueur comme Dembélé, potentiellement, ça peut être préjudiciable. Alors oui, quand vous avez Lacazette, vous pouvez dire que vous avez un buteur. Mais associer les deux, et je trouve que ça fonctionne bien dans ce que Blanc veut mettre avec Aouar derrière les deux. Deux pointes comme ça, deux chasseurs de but. Moi, je pense que lui, il a pas mal à gagner. Et je suis curieux justement de voir à plus long terme cette association entre Lacazette et lui. Mais je pense que je le mettrais peut-être. Si je devais classer les trois qui ont plus à gagner, c'est Aouar de très loin.
Exactement.
Je mettrais quand même Boateng en deux parce que. Non, mais d'où il part, je dis pas qu'il va y arriver. Je dis que lui, ce serait quand même le upgrade le plus dingue de la saison.
Oui, il jouait pas, donc forcément, il était
Plus
de foot.
Mais le mec est quand même sorti de la cave pour jouer. Et si jamais il se tient à retrouver un niveau correct, il peut avoir à gagner. Et je mettrai Dembélé en 3. Pour les deux autres, Fèvre et Cherki, ça me paraît plus difficile.
Allez, on va passer à notre dernier sujet. Peut-être enfin une bonne nouvelle pour Didier Deschamps, qui vit quand même des jours, des semaines, voire des mois compliqués depuis quelques temps à la tête de l'équipe de France. Et à un mois de l'entrée en lice de l'équipe de France pour la Coupe du Monde, bonne nouvelle, petit miracle pour Paul Pogba, qui a repris le chemin de l'entraînement, la course, contact avec le ballon, l'entraînement collectif. Après une opération au genou qui était quand même assez lourde, voire très lourde. Alors la question est simple, Didier Deschamps est face à un dilemme. Faut-il faire confiance ou non à Paul Pogba à un mois du Mondial? On avait interrogé Jean-Pierre Paclet, hein, qui est l'ancien médecin de l'équipe de France, notamment sous Raymond Domenech, qui nous avait dit à propos de l'opération de Pogba, quand on touche au genou, on a deux gros problèmes, la tolérance de l'articulation et l'état physique de récupération. Je n'ai pas ce dossier médical entre les mains, mais ça me semble très difficile de le voir à 100% au début de la compétition, même si c'est difficile d'être tout à fait catégorique aujourd'hui. Maxime, Deschamps risque d'être confronté à un cas de conscience.
Ouais, cas de conscience. Et Jean-Pierre Paclet, lui, n'a plus ce cas de conscience parce que pour avoir emmené avec Raymond Domenech Patrick Vieira à l'Euro 2008, il se souvient du bazar que ça avait été.
Ouais, il le regrette,
si vous ne souvenez pas, allez revoir la conférence de presse d'avant France-Italie. C'est lunaire, voilà, tout simplement, parce qu'il se plaignait évidemment du traitement. Le cas de conscience de Deschamps, il est simple et il se résume à un chiffre que tu as donné, enfin un pourcentage, 100%.
Ça n'arrivera pas.
Ça n'arrivera pas. Pogba sera-t-il à 100% à la Coupe du Monde ? Non. Parce qu'il a repris. Alors déjà, j'espère qu'il n'a pas repris trop vite, qu'il n'y ait pas de rechute. Bon, je pense qu'il est bien, entouré avec les médecins de la Juve qui, pour eux, on va pas se mentir, l'intérêt des médecins de la Juve, c'est en gros qu'ils ne jouent pas la Coupe du Monde, mais qu'ils soient prêts pour la suite de la saison. Donc j'imagine que s'il a été autorisé à reprendre l'entraînement collectif, c'est qu'il est jugé apte par eux et qu'a priori, ils ne prennent pas un risque trop grand avec leurs joueurs. Il faudrait, pour bien faire, qu'il joue 3-4 matchs d'ici le Mondial pour déjà avoir une idée, un échantillon. Un peu.
Il en reste 6.
Il en reste 6. Je pense que 3-4 matchs, c'est pas impossible.
4, c'est beaucoup. 2, 1 ou 2, peut-être. Hein.
Je te mets 3, allez, hop, 3, c'est pour moi. parce que Didier Deschamps aura un... Parce qu'il y a toujours ce premier match où des fois, ça se passe hyper bien, sur l'adrénaline, etc. Puis le deuxième, parfois un peu moins bien. Et le troisième, c'est souvent celui qui dit un peu
c'est
ce
vrai.
Que vous êtes.
C'est vrai.
Le problème, c'est de savoir à partir de quel pourcentage, évidemment, c'est compliqué à décider, même pour savoir, Didier Deschamps est prêt à emmener Pogba. 90%, à mon avis, c'est oui. Mais est-ce que c'est possible? Ça me paraît difficile. 75%, ça peut être par là, mais est-ce que Deschamps...
Peut-être qu'il peut descendre avec Pogba ou il ne descendrait pas avec d'autres joueurs.
Oui, oui, tout à fait. Mais si on écoute le sélectionneur, alors, le problème du sélectionneur, c'est qu'il s'est un petit peu renié sur ses principes ces derniers mois, depuis, on va dire, l'avant-Euro 2021. Et on sait que ça n'a pas forcément... porter chance aux joueurs. Il y a cette déclat de Didier Deschamps. L'important est avant tout qu'il soit guéri. Je pense qu'il le sera. C'est déjà une bonne chose. Ensuite, il y a un deuxième aspect qui est athlétique. Mais je le répète, avant de penser à une convocation, il doit être guéri. A priori, ça, ouais, ça devrait aller. Le premier match, c'est contre l'Australie. Et l'Australie, bah, des trois adversaires du premier tour, c'est pas forcément le plus difficile, mais c'est sans doute le plus rugueux. Et c'est pas forcément un cadeau pour Paul Pogba.
Moi, je pense que en fait, le vrai problème de Didier Deschamps, c'est que s'il avait eu Kanté sous la main, peut-être qu'il se serait moins posé de questions, il n'aurait pas pris le risque Pogba. Pourquoi ? Parce qu'il y a Aurélien Tchouaméni. Le problème, c'est qu'Aurélien Tchouaméni va déjà remplacer N'Golo Kanté. Et que derrière, il y a très peu de solutions, il n'y a pas de solution même qui soit complètement optimale. Adrien Rabiot, c'est quand même compliqué avec la Juventus Turin, mais il a l'expérience internationale. Derrière, les Fofana, les Guendouzi, qui sont plutôt sur des bonnes trajectoires, des bonnes dynamiques en club, démarrer la Coupe du Monde avec eux au milieu de terrain, ça me paraît un brin cavalier quand même. Donc, il va falloir qu'ils choisissent Didier Deschamps. Le problème, c'est que est-ce que tu peux partir à la Coupe du Monde sans Kanté, ce qui est déjà acté, hein, en fait Kanté est acté depuis une semaine, et sans Pogba? Voilà, ça paraît beaucoup et ça quand même minimise les chances de l'équipe de France. Après, est-ce qu'on peut compter sur une montée en puissance jusqu'à la fin de la Coupe du Monde? C'est jamais un bon calcul.
Ouais. Surtout avec un retour de blessure. Un joueur qui arrive en méforme ou sur une mauvaise saison, à la rigueur.
Non, mais surtout que là, tu n'as pas le temps de les remettre en forme.
Il voilà. n'y a pas la préparation.
Pas de prépa.
Et l'histoire des compétitions internationales ou des Coupes du Monde, regardez 2018, en gros, on découvre plus ou moins que la paire de latéraux sera Lucas Hernandez et Benjamin Pavard grâce à la préparation. Là, Didier Deschamps ne peut pas dire match 1. Contre un adversaire de prépa, je vais mettre Tchouaméni et Guendouzi. Match 2, je vais peut-être tenter Rabiot
ouais.
Et voilà, faire des paires différentes. Donc c'est un peu jeter une pièce en l'air que de se dire j'y vais sans Pogba. L'emmener, c'est aussi jeter une forme de pièce en l'air.
Oui.
Mais après, enfin non, je sais pas en fait. J'allais dire, j'ai envie de faire confiance à Deschamps et lui dire et de penser qu'il ne l'emmènera pas s'il a un doute. Mais vu ce que j'ai dit avant sur l'année dernière, sur les fois où il a changé de façon,
direction,
de direction. On en parlait tout à l'heure avant l'émission avec Martin, quand on parlait du 3-5-2 et du fait qu'on a entendu Deschamps à un moment dire, notamment après la Côte d'Ivoire à Marseille, « Je suis prêt à prendre le risque du 1 contre 1 ». C'est des trucs qu'il ne disait pas avant. On voit que le logiciel change, il évolue, donc c'est ça qui le rend peut-être un peu plus difficile à suivre et qui peut faire douter du fait qu'il emmènerait un Pogba un peu diminué, alors qu'il a dit il y a, au moment de sa blessure, que c'était jamais une bonne idée, qu'il ne fallait pas faire ça, qu'il fallait être compétitif dès le premier match. Reste à savoir ce qu'il met derrière compétitif dès le premier match, parce qu'il peut très bien dire après, non, non, mais il sera compétitif, sauf qu'il démarrera sur le banc.
Parce qu'on rappelle que Deschamps, en 2014, n'avait pas hésité à ne pas amener Franck Ribéry. Ouais. À l'Euro 2016, c'était Varane. Bon, en 2018, c'était Koscielny, mais là, il n'y avait pas de choix à faire, c'était une évidence. Donc, voilà, il peut trancher. Ce qui est certain aussi, enfin moi ce qui me semble certain, c'est que France-Australie, ce sera sans doute un milieu pour moi, ce sera Tchouaméni Rabiot, parce que je pense qu'il va faire confiance à Rabiot, parce que l'expérience, et parce que finalement, Rabiot a été quand même un membre incontournable de l'équipe de France entre 2018 et aujourd'hui. Donc voilà. Tchouaméni Rabiot, c'est quand même pas Kanté Pogba, Maxime. Et je crois que ça, on est tous d'accord.
On est d'accord. On est Rabiot. Le problème de Rabiot, c'est... Enfin, le problème. C'est un point d'interrogation, Rabiot. Mm. Même à la Juve, on dit toujours, oh, il va partir. Mais il joue tout le temps.
Parce que souvenez-vous de France-Allemagne, le premier match de l'Euro. Il est très, très bon.
Il est très bon. Dans le combat, c'est un guerrier. En revanche, deux, trois fois où ça va moins bien. Donc, c'est comme il est sur courant alternatif, c'est compliqué de savoir quel Rabiot. On peut avoir un formidable joueur ou un joueur très quelconque. C'est vrai que moi, j'aime bien Tchouaméni Fofana, mais comme tu le dis, le vécu, il est quand même léger. Alors, l'équipe de France 2018, elle a très, très peu de vécu, mais n'empêche qu'au moins dans des secteurs clés, que ce soit la défense centrale avec Varane, que ce soit le milieu avec Kanté Pogba ou devant avec Griezmann, il y avait cette fameuse colonne vertébrale. Et aujourd'hui, cette colonne vertébrale, bah, il va manquer une petite vertèbre au niveau du milieu. Tchouaméni est sans doute cette solution, mais est-ce que ça suffira ? C'est la question.
On voit que Maxime a fait des cours d'anatomie dans sa jeunesse, des petits cours de SVT, comme on disait à l'époque.
6 ans de médecine, mais j'ai arrêté parce que j'avais pas envie de faire ça, j'avais envie de prendre du plaisir.
T'aurais dû continuer, Maxime. Parce que là, c'était une grande carrière qui s'ouvrait à toi.
Professeur saillant.
C'est potentiellement l'une des émissions les plus longues de l'histoire. Est-ce qu'on sait combien a duré cette émission ? Non, mais...
Alors que c'est celle où on avait le moins de temps, oui, mais elle est plus de 40 minutes, je crois.
Ouais.
Mais on s'ennuie pas, on est bien. Et c'est le moment le plus douloureux, honnêtement.
C'est quand on est
c'est maintenant, là. Parce qu'on a envie de vous parler. En fait, on aimerait bien aussi parler, même échanger en direct, voyez.
C'est vrai. À l'époque des Facebook Live, c'était pas mal quand on avait quelques questions, c'était sympa. Mais ce temps est révolu. Alors moi, ça va pas être le pire moment de ma semaine parce que je vais aller manger, j'ai très faim.
Ouais, parce que moi, j'ai pas le temps là.
Voilà. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du FC Stream Team, lundi Tour d'Europe. Mercredi, mercato. Ah non, mais moi je suis pas là la semaine prochaine. Donc je sais pas avec qui tu vas faire le FC Stream Team. Maxime, t'es là toi la semaine prochaine?
Bah oui, je suis là. Moi je prends pas de vacances. Moi. Jamais de vacances.
Pour la semaine d'après, non?
Il faut toujours.
Tu prends pas la semaine d'après?
Je prends.
Voilà, tu prends pas de vacances jusqu'à la semaine d'après.
Je suis pas sûr, faut que je vérifie sur mon agenda.
Voilà, et sachez que le FC Stream Team ce sera 6 jours sur 7 pendant la Coupe du Monde.
Ouais, 6 jours sur 7 avec Tour d'Europe qui deviendra Tour du Monde.
Oh là là.
Ça travaille pendant
et
la Coupe du Monde.
Une équipe de marketeux, là, je peux vous dire, Eurosport, ça bosse, les noms d'émissions.
J'ai pris 10% sur le nom.
T'as pris 10%. Alors avec qui tu
présentes? Je crois que c'est Cyril Morin, évidemment, en même temps.
Bon, le super sub, le Ryan Cherki du FC Stream Team. Et merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous il vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci Anne aux manettes. Merci Marco Popovic.
Et j'espère que j'aurai un visuel. Truc à raconter. Je réfléchis.
Parce que je suis pas là. Oui, mais c'est vrai que quand t'es pas là, quand je suis pas là, l'émission non, perd non, un mais... petit peu. Donc non, ne soyez pas surpris la semaine prochaine.
J'espère qu'il nous a réservé un.
Voilà. Rendez-vous la semaine prochaine. Ciao.
Salut.